management. Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Passez une excellente journée. À notre écoute, vous êtes sur Radio Classique. Nous sommes le 9 octobre. Il est exactement 7 heures.
La matinale de Radio Classique avec Bernard Poirette.
Et en ce qui concerne ce journal avec Lucille Bréau, Lucille, voici les titres du journal. Il n'y a plus aucun otage français retenu dans le monde. Ça, c'est une super nouvelle pour ouvrir ce journal. La dernière otage, Sophie Petronin, est libre ce matin. On entendra ses premiers mots dans quelques instants et elle sera accueillie dans la journée à Paris par le président Macron. Nous reviendrons dans ce journal également sur les principales annonces d'Olivier Véran hier soir. 4 nouvelles villes vont basculer dès demain du rouge à l'écarlate en zone d'alerte maximale Covid. Donc, Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Étienne, Toulouse et Montpellier devraient suivre. Et puis, un pont aérien pour sauver les clémentines de Corse. C'est l'incroyable histoire que nous allons vous raconter à la fin de cette édition.
Radio Classique.
Lucille, donc Sophie Petronin est libre ce matin.
4 ans que cette humanitaire de 75 ans était retenue au Mali, enlevée la veille de Noël 2016 par un groupe armé à Gao. Très vive émotion cette nuit sur le tarmac de l'aéroport de Bamako quand elle a retrouvé son fils Sébastien. Voilà Sophie Petronin, toute vêtue de blanc, qui enlace son fils Sébastien à sa descente de l'avion. C'était un peu avant minuit. Elle a pris la parole dans la foulée. On l'écoute.
Au fond de moi, j'ai toujours été sûre et certaine que je retournerai, que je ne mourrai pas. Et je me suis dit, surtout n'accorde pas d'importance à la mort, parce que tu ne sais pas où, quand et comment elle arrivera. Alors, tu t'en fous. Vas-y, tiens bon, accroche-toi. C'est ce que j'ai vu.
Les premiers mots de Sophie Petronin, dernière otage détenue française dans le monde, qui semble donc en bonne forme. Charles Bonner, que sait-on des circonstances de sa libération ce matin?
Sophie Petronin a été libérée avec 3 autres personnes, 2 Italiens et l'homme politique malien Soumaïla Cissé. Une libération attendue depuis plusieurs jours. Le fils de Sophie Petronin était sur place dès mardi. Pour le reste, ni la France ni le Mali ne donnent de détails. Les circonstances restent donc assez floues, y compris pour ceux qui suivent le dossier, comme le président du groupe d'amitié France-Mali, le député Nicolas Desmoulins.
C'est un immense soulagement. Voilà, c'était très particulier comme situation. On attendait cette fameuse confirmation, elle est tombée. Enfin. On a souvent interpellé le gouvernement parce qu'on pensait beaucoup à elle. Et pour nous, on est vraiment très heureux.
Vous l'entendez, des députés qui ont alerté, mais officiellement, la France ne négocie jamais, d'autant plus que Sophie Petronin était aux mains d'une nébuleuse de groupes djihadistes contre lesquels la France mobilise plus de 5000 soldats dans l'opération Barkhane. Le coup d'état militaire d'août dernier au Mali a, semble-t-il, accéléré les négociations et cela ressemble fort à un échange, car depuis ce week-end, des détenus sont libérés des prisons maliennes, des détenus djihadistes au nombre de 206 selon un organe de communication d'Al-Qaïda.
Sophie Petronin qui va s'envoler à présent pour la France où elle sera accueillie dans la journée par Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a fait part de son immense soulagement cette nuit dans un communiqué.
Chez nous, Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Étienne vont à leur tour basculer dès demain en zone d'alerte maximale Covid.
C'est la principale annonce d'Olivier Véran hier soir lors de son point presse hebdomadaire. Là-bas, les bars vont devoir fermer et les restaurants soumettre désormais à des règles sanitaires beaucoup plus strictes. Le ministre de la Santé qui confirme que la situation continue de se dégrader dans notre pays et qui appelle chacun à être responsable dans le cadre privé. Il faut même s'attendre à une marée très forte, prédit l'Agence régionale de santé d'Île-de-France qui a activé le plan blanc renforcé dans les hôpitaux pour leur permettre de déprogrammer des opérations. 2 villes sont également en sursis ce matin, comme Paris la semaine dernière. Toulouse et Montpellier, elles pourraient basculer du rouge à l'écarlate dès lundi si les indicateurs restent mauvais. Seule bonne nouvelle là-dedans, la situation s'améliore à Nice, Bordeaux, Rennes et Aix-Marseille.
Le gouvernement qui a également entendu la détresse de 31 professions complètement laminées par la pandémie.
Les fleuristes, les loueurs de voitures, les blanchisseurs, les bouquinistes des quais de Paris qui vont pouvoir bénéficier du fonds de solidarité et toucher jusqu'à 10 000 euros d'aide par mois. Un soulagement pour Florent Moreau. C'est le président de la Fédération des artisans fleuristes.
Il y a une partie des entreprises fleuristes, notamment sur Paris ou dans les grandes métropoles françaises, qui se sont directement impactées. Parce qu'il n'y a pas de mariage, parce qu'il n'y a pas d'événements professionnels, notamment donc tous les salons ou l'ensemble des événements qui ont été interdits ou annulés, et également la fermeture donc des hôtels ou des restaurants. Donc effectivement, effectivement un besoin en fleurs qui est inférieur à la normale. C'est une profession assez fragile avec une trésorerie toujours assez limitée et en flux tendu. Aujourd'hui, on estime que 15% des fleuristes ont ou vont être amenés à fermer leurs portes dans les mois qui viennent suite à cette crise-là. Donc évidemment, tous les dispositifs qui peuvent être mis en œuvre pour préserver les fleuristes sont les bienvenus. Vraiment, on ne peut que s'en féliciter.
Un fonds de solidarité élargi pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ont perdu 70% de leur chiffre d'affaires. L'un des deux policiers blessé par balle hier à Herblay dans le Val-d'Oise est encore entre la vie et la mort ce matin. Il a reçu 4 balles. Il a été transféré à l'hôpital Bichat à Paris. Les 3 suspects qui ont dérobé leurs armes aux 2 fonctionnaires sont toujours recherchés.
Et on fera le point évidemment avec Marlène Schiappa, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, qui sera l'invitée de Radio Classique à 8h15 tout à l'heure.
Marlène Schiappa chargée avec Gérald Darmanin, vous le savez, d'élaborer un plan, le projet de loi, le fameux contre les séparatismes détaillé la semaine dernière par Emmanuel Macron. L'un des volets de ce plan, c'est un contrôle plus strict des écoles hors contrat. Hier à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, c'est une école clandestine qui a fermé. Les autorités y ont retrouvé des enfants à peine âgés de 3 ou 4 ans, voilés de la tête aux pieds, Eric Kioche.
Oui, les policiers y ont découvert une 50aine d'enfants âgés de 3 à 6 ans. Certains étaient voilés de la tête aux pieds. Pas de cours de récréation, un local dépourvu de sécurité incendie et aucun respect des protocoles sanitaires. L'association n'avait aucune autorisation d'enseigner ni d'accueillir ces enfants. Pourtant, jusqu'à 80 d'entre eux y sont inscrits. Officiellement, l'école proposait des cours de lecture et d'écriture ainsi qu'une introduction au Coran destinée aux femmes et enfants. Une façade derrière laquelle se cacherait en réalité un lieu d'embrigadement des plus petits. Une partie des parents sont connus des services de police pour leur lien avec les milieux islamistes et certains enseignants sont issus d'une autre école clandestine fermée en janvier à Aulnay-sous-Bois dans le même département et pour les mêmes motifs. En tout, depuis 2018, une 15aine d'écoles, de salles de sport ou de mosquées soupçonnées de promouvoir l'islam radical ont été fermées.
Le reportage donc d'Éric Kioche et on termine avec ce pont aérien complètement fou entre Bastia et le Maroc pour tenter de sauver la récolte de clémentine de Corse.
Un premier avion doit atterrir ce matin à Bastia avec à son bord des travailleurs agricoles marocains. Plus de 900 sont attendus sur l'île dans le contexte sanitaire. Des avions étaient spécialement affrétés pour eux à la demande des producteurs de clémentine, Émilie Vallès.
Ce pont aérien peut paraître démesuré mais on n'a pas le choix, explique Simon-Pierre Fazi, président de la filière agrume de Corse, qui rappelle que ces travailleurs marocains qualifiés viennent tous les ans pour 3 à 6 mois. Lui en accueillera une 15aine sur son exploitation.
On ne trouve pas de main-d'œuvre locale, donc ça veut dire pas de récolte, ça veut dire un chiffre d'affaires de la filière qui avoisine les 70 millions d'euros par an qui ne se ferait pas. Donc on a privilégié cette procédure qui est sécurisante en termes sanitaires.
Toutes les précautions sont prises, ces travailleurs seront testés à leur départ de Casablanca, puis à leur arrivée en Corse et de nouveau 7 jours après. Une opération supervisée par plusieurs services de l'État. Didier Leski, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, précise qu'il a aussi fallu négocier avec les autorités marocaines.
Au Maroc, les protocoles sont extrêmement sévères. Il y a une interdiction de circulation d'une région à l'autre actuellement. Et donc, c'est pour ça qu'il a fallu négocier avec les autorités marocaines l'autorisation pour ces personnes de voyager à l'intérieur du royaume, puisque ce sont des saisonniers qui viennent de zones rurales du Maroc pour aller jusqu'à Casablanca.
Les 5 vols aller-retour ont bien sûr un coût, 300 000 euros intégralement pris en charge par 150 producteurs corses qui préviennent déjà. Il n'y aura pas de répercussions sur le prix des clémentines pour les consommateurs.
Émilie Vallès et puis Roland Garros, on connaît désormais, Bernard, l'affiche de la demi-finale, de la finale, pardon, dame de Roland Garros. Elle aura lieu demain. Elle opposera une jeune Polonaise de 19 ans, Iga Świątek, et l'Américaine Sofia Kenin. Aujourd'hui, place aux demi-finales, messieurs.
Finale complètement inédite. Je pense que les bookmakers, là, ceux qui ont parié sur ce match Świątek-Kenin, alors c'est sidérant. Merci beaucoup, en tout cas. C'était le journal de 7 heures. Elle revient tout à l'heure pour le journal de 8h, il est 7h09 exactement. Retour de Dimitri Pavlenko dans une...